Bonjour Georges-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Laetitia.
Ce matin, vous consacrez vos chroniques à une plongée sous l'eau de la mer, Georges-Emmanuel.
Pour vous faire découvrir le monde des câbles sous-marins, premier essai en 1838, aujourd'hui d'un continent à l'autre, ils sont répartis sur la surface du globe et sont devenus un des éléments les plus importants de l'économie maritime. Notre guide ce matin est Camille Morel, doctorante sur les enjeux juridiques et stratégiques des câbles sous-marins. Camille, peu le savent, mais 95% des communications dans le monde se font par câble sous-marin et non par satellite.
Oui, c'est une méconnaissance de ce qui se passe au niveau des transmissions des télécommunications mondiales. Et en effet, 95% des télécommunications passent par câble sous-marin. Donc en fait, on ne le sait pas forcément parce que c'est une infrastructure plutôt invisible qui fait qu'on a tendance à penser qu'effectivement, c'est le satellite qui sert à cela. En fait, le satellite représente 2% du trafic et va servir plutôt en complémentarité de l'infrastructure sous-marine.
Et le câble sous-marin, c'est la fibre optique, ça passe à la vitesse de la lumière.
Tout à fait. Donc on a des capacités différentes de câbles sous-marins. Les plus récents vont jusqu'à 160 terabits par seconde.
Oh, ça fait combien ça, alors, des terabits
par seconde? C'est énorme.
C'est
des milliers d'appels et de données Internet, oui. Mais c'est surtout intéressant de voir la comparaison avec ce qui est aujourd'hui en service, qui est en moyenne entre 10 et 60 terabits par seconde. Donc c'est considérable, en fait. La capacité est croissante et ça risque de perdurer encore un petit peu.
Alors, on rappelle, hein, le câble sous-marin, ça relie donc des continents les uns avec les autres. Et généralement, le câble sous-marin, on le pose au plus près du continent.
Tout à fait.
Beaucoup de câbles sous-marins se trouvent au nord du globe.
C'est ça, en fait, on choisit la route la plus courte, mais également la route la plus sûre en termes notamment de passage de séismes ou de fosses qui pourraient endommager le câble, parce que le câble sous-marin est assez fragile.
Il est très fragile et on peut le poser jusqu'à combien
de
mètres?
Les industriels disent qu'il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est la limite technologique. Dans le fond des mers, le câble est posé simplement sur le fond, alors qu'effectivement, plus on se rapproche des côtes et plus la profondeur est moindre, plus il va y avoir une technologie d'ensouillage, c'est-à-dire de protection du câble sous-marin.
On va un peu le fixer. Quand même.
Voilà, tout à fait.
Puis aussi, il y a la question de l'espionnage. Il y a des câbles sous-marins très importants. Alors, il y a aussi des pays qui veulent aller couper le câble sous-marin de l'autre.
Exactement. Il y a pas mal d'enjeux, disons, géopolitiques autour du câble. Et puis, ça reste quelque chose d'un petit peu... On ne sait pas vraiment...
C'est un peu discret, mais on imagine que celui qui a repéré le câble de Wall Street, bon, il doit être super
protégé,
celui-là.
Surtout que la finance voit un grand intérêt dans ces câbles sous-marins qui leur font gagner quelques millisecondes et qui, en termes financiers, représentent un atout considérable.
Alors, la réalité du câble sous-marin aujourd'hui, Camille Morel, quelle est-elle?
Aujourd'hui, donc, c'est une division du marché en plusieurs acteurs. D'abord des propriétaires qui se regroupent en consortium en général, et puis des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché, donc notamment des fournisseurs de contenu, donc Google, Facebook, Microsoft, qui viennent investir dans les câbles sous-marins. Et ça révolutionne un petit peu la manière dont était investi jusqu'à présent l'infrastructure. Aujourd'hui, ces nouveaux acteurs, ils ont des intérêts plus précis et surtout des besoins de relier leurs propres équipements qui se concentrent surtout sur les axes transatlantiques et transpacifiques.
Et puis quand on tape sur Internet câble sous-marin, on obtient la carte.
Tout à fait.
Et là, on a un choc. Hein.
Ouais. C'est vrai que c'est méconnu, donc on ne se rend pas compte du nombre de câbles. Aujourd'hui, on a environ 300 câbles sous-marins qui sont actifs en 2017, et puis de nombreux projets à venir. Et comme en Arctique, il y a plein d'enjeux de puissance qui sont liés à ça. Les prédictions sont plutôt à l'augmentation encore, au moins sur une dizaine de prochaines années, du nombre de câbles, ça c'est certain.
Et puis un câblier, donc le bâtiment, le navire qui pose le câble, aujourd'hui, il peut peser tout un câble.
Tout à fait. Alors maintenant, on a réussi à faire de bout en bout.
On peut aller jusqu'à combien de kilomètres avec le câblier?
Je crois que le plus long posé, c'était 20 000 kilomètres, donc au niveau transpacifique.
En une seule fois, quand même.
En une seule fois, voilà.
Pas donc, mal, hein, c'est, avec le même bateau.
Tout à fait. En revanche, effectivement, tout ce qui est robot sous-marin aide bien à la pose.
Exactement. Et puis le drone va aussi servir à surveiller ce
câble. Et la charrue aussi qui rend des services assez...
Alors la charrue, elle permet de creuser, c'est...
Exactement, d'ensouiller le câble en mer. Ça, c'est une vraie technologie, je pense, qui a révolutionné un petit peu la manière de poser et de réparer les câbles sous-marins.
Camille Morel, on peut suivre vos études dans la revue Études ou la revue Hérodote, et puis le site internet de la carte du câble sous-marin.
Oui, Submarine Cable Network.
Submarine Cable Network. Submarine Cable Network, Laetitia, en français, on tape tout simplement câble sous-marin, vous aurez aussi la carte.
Merci José-Manuel Lamarque, c'était les chroniques littorales du vendredi.